Nous commençons une étude de l'évangile de Marc aujourd'hui. Nous allons lire les 14 premiers versets. Même si notre méditation ne concerne que les 8 premiers versets, on va voir le contexte. En fait, on va lire jusqu'au verset 15. Voici les paroles de l'évangile. Pardon. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean, qui est donc cette voix qui crie dans le désert, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Voilà, un grand mouvement de masse se produit au moment où Jean-Baptiste prêche. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Ce n'est pas ordinaire. C'est pour ça que Marc le mentionne. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ce n'est pas habituel. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, descendre sur lui comme une colombe et une voix fit entendre des cieux ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Jésus aussi va aller dans le désert, comme les gens qui se rendaient auprès de Jean-Baptiste. Où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, parce que Jean-Baptiste fut assassiné par Hérode peu de temps après, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Êtes-vous préparés? Est-ce que je suis préparé? Alors, c'est une très très mauvaise chose de ne pas être prêt. Nous pouvons penser à ce tsunami qui a frappé le Japon, le tremblement de terre, le tsunami, et nous pouvons voir à quel point les Japonais étaient complètement pris au dépourvu. Vous allez dire qu'ils ne pouvaient pas être préparés pour ça. Oui, d'accord. Mais toujours est-il qu'il est très mauvais d'être dans un cas non préparé pour quelque chose de grand et d'important. Que ce soit bien ou mal, nous célébrons notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Et il y a 24 ans, quand dans mon salon, salon où j'étais locataire avec un ami chrétien, j'ai demandé à Nikki de m'épouser. J'ai fait mon discours que j'avais préparé. Et à la fin de ce discours, Elle a dit, est-ce que tu peux me redire cela? Elle n'a rien entendu. Elle n'était pas du tout prête ou préparée à ce que je lui parle du mariage. Elle était prise complètement dépourvue. En fait, elle avait envie de me disputer ce soir-là de quelque chose que j'avais dit dans la journée, qu'elle trouvait pas correct. Mais si elle avait su que je préparais ce soir-là, elle aurait compris cette phrase. Mais de toute façon, elle était dans un état d'esprit qui n'était pas du tout prêt pour une demande de main en mariage. Et dommage, parce qu'elle a raté, elle a vraiment raté, le moment le plus important de notre vie jusque-là. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Marc un passage qui nous montre que Dieu doit nous préparer aussi pour la venue du Fils de Dieu. Nous aussi. Nous allons voir que ce passage dit des choses qui nous concernent, que nous ne soyons pas croyants ou que nous le soyons. Mais nous voulons comprendre comment est-ce que Dieu a fait avec Israël lorsque le Christ arrive. Je dois dire que je suis parfois frustré avec les non-chrétiens, certains, qui me disent que je ne croirai pas en Dieu à moins que je voie une action de sa part à la taille de Dieu. Donc, un miracle. Mais quand on leur parle des miracles de la Bible, ils disent tout de suite, non, ça ne peut pas arriver. Donc, ils demandent une preuve, et quand tu dis qu'un miracle s'est passé dans l'histoire, ils disent, un miracle ne peut pas se passer. Donc, ils interdisent d'emblée la chose qu'ils exigent comme preuve de l'existence de Dieu. Mais nous allons voir que Dieu nous prépare bien à une action à la taille de Dieu. Parce qu'il sait que nous sommes bien incrédules. Il sait que nous sommes lents à croire. Et dans sa grande grâce et sa bonté, il fait une chose énorme pour nous préparer. Et il vous prépare aussi pour le Seigneur Jésus dans ta vie. Donc, nous lisons au début dans le verset 1 que Marc dit « Je vais vous raconter le commencement de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Et il est en train de parler de ce qui arrive avant que Jésus ne commence à faire son ministère. Il y a un commencement à la bonne nouvelle. Ça n'arrive pas comme ça. Et il appelle ça la bonne nouvelle de Jésus. Le Christ, le Fils de Dieu. Alors, nous avons l'habitude de penser que son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus. Son titre, c'est Christ. Qui veut dire quoi? Christ. Un personnage royal. Désigné par Dieu. Christ, le roi royal. Le roi du ciel envoyé par Dieu. Pour apporter le royaume de Dieu. Donc, il dit que sa bonne nouvelle concerne Jésus, qui est le roi envoyé par Dieu, le Fils de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas nous arrêter là, mais tout l'évangile concerne Jésus, qui est le Fils de Dieu. C'est absolument bouleversant. Et il faut que vous soyez préparés pour cela, parce que c'est tellement grand que vous n'allez jamais le croire, à moins que Dieu vous y prépare. Alors, quand vous entendez qu'il y a une bonne nouvelle, un roi arrive, vous devez tout de suite penser à ceci. On a trouvé des documents dans l'Antiquité, de l'Empire romain, où les gens utilisaient le mot évangile. Ils annonçaient une bonne nouvelle. Vous savez le contexte? C'est parce qu'un nouvel empereur était arrivé sur le trône de l'Empire romain, et cet empereur a envoyé des messagers dans l'Empire pour dire « Il y a une bonne nouvelle, un évangile, Jules César est monté sur le trône, réjouissez-vous et donnez-lui votre allégeance. » Et la Bible utilise ce même langage pour nous dire « Le Fils de Dieu est monté sur le trône, réjouissez-vous. » Et pourquoi est-ce qu'on doit se réjouir quand il y a un nouveau roi? C'est un peu bizarre pour un Français, n'est-ce pas? On dit, aucun roi, aucun dieu, n'est-ce pas? Mais un nouveau roi est une bonne nouvelle si ce roi est bon. Parce que le roi, c'est quelqu'un qui va avoir du pouvoir et il va pouvoir faire à nous ce qu'il veut et de nous ce qu'il veut. Mais s'il est plein de grâce et s'il vient avec un plan de salut, de bénédiction, de bonheur pour toi, et bien sûr, ça c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en France, il y a des choses qui arrivent dans la société que vous ne pouvez pas changer, mais le président peut les changer, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Il y a des choses qui sont tellement grandes que ça imprègne toute la société. Et vous n'allez pas changer ça. Mais il y a des choses qu'un roi peut changer. Donc, voilà pourquoi la bonne nouvelle. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons surtout comprendre pourquoi il fallait un commencement de la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que Dieu doit vous préparer pour son Fils? Alors, la bonne nouvelle est au sujet de Jésus, mais ne commence pas avec Jésus, ça commence avec Jean. Et par sa venue, nous voulons apprendre plusieurs choses. Si j'ai besoin d'être préparé pour quelque chose, ça veut dire que je ne suis pas prêt, n'est-ce pas? Tel que je suis. Et nous allons comprendre que quelque chose sur nous-mêmes, par cette préparation de Dieu, que nous ne sommes pas prêts pour lui. Nous ne sommes pas dans une condition où s'il venait, ce serait une bonne chose pour nous. Nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose en nous pour nous préparer pour le salut. Sinon, quand il viendra, ce sera plutôt un désastre pour nous. Et peut-être pour vous aussi, l'Évangile vient vers vous, mais vous n'êtes pas du tout dans un état où vous pensez même avoir besoin de cet Évangile. Ça vient... Et c'est comme un sol qui n'est pas préparé pour la pluie. Vous savez qu'il y a des sols qui ne sont pas préparés pour la pluie. Si la pluie tombe, ça glisse dessus et ça ne pénètre pas. Il faut prendre un... Qu'est-ce qu'on appelle ça? J'allais dire scarificateur. C'est pas ça? Oui, enfin, il y a un outil qu'on utilise pour... percer des trous dans le sol afin que de préparer le sol pour que la pluie vienne. Et nous pouvons être comme ça parfois. On peut être dur, comme un sol dur, et lorsque l'Évangile vient, le salut vient, Christ lui-même tape à la porte, il y a des choses, Christ, le Christ vivant, fait des approches, il nous parle dans notre conscience, dans notre cœur, dans notre intelligence, mais on n'est pas prêt, on n'est pas prêt du tout à cela. Et dans sa grande bonté, Dieu nous connaît, et il prépare le peuple avant que le Christ n'arrive. Alors, donc, nous voyons qu'il y a longtemps, Isaïe le prophète est Michée, parce que ici, Jean, quand il va venir, il va citer deux passages de la Bible et les mettre ensemble, et il va dire « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Aplanissez les chemins du Seigneur. Et Jean leur dit, il y a longtemps, il y a des siècles, Dieu n'a pas seulement prédit le Messie, le Christ, que Jésus allait venir pour vous, mais il a prédit qu'il avait un précurseur, un autre qui viendrait préparer le chemin. Alors c'est moi cette personne. Pourquoi est-ce que Dieu a dû prédire non seulement Jésus et sa venue, mais aussi son prédécesseur? Son précurseur, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut vachement préparer ce peuple parce qu'il faut les préparer pour celui qui les prépare, n'est-ce pas? Mais de toute façon, quand Jean va venir et quand il va prêcher et citer ce passage d'Isaïe, il va mettre les gens en attente du Messie. Je suis le précurseur. Le Christ va arriver tout de suite, je suis venu pour vous préparer. Et les gens ne vont pas dire, ah, ça tombe des nues, c'est quoi ça? Ils vont dire, ah oui, effectivement, Dieu nous a bien dit qu'il allait nous préparer. Et les gens sont mis en attente. Et aussi, parce que la parole de Dieu avait dit qu'un homme viendrait comme lui, ils ont plus tendance à écouter Jean-Baptiste, à venir. Et Aussi, je crois que ça les empêche de confondre Jean et Jésus. Je ne suis que le précurseur. Vous savez que lorsque Jean est venu, le pays est venu en foule vers lui dans le désert, et puis au Jourdain. Et c'est difficile pour moi de comprendre, mais c'est ce que nous appelons un réveil spirituel. Un réveil spirituel, les gens étaient touchés à vif, et ils demandaient « qu'est-ce que nous devons faire ?» Nous sommes concernés, tout un peuple est agité par l'Esprit de Dieu à travers un homme bizarre. Et la Bible nous dit en Jean chapitre 10, verset 14, je crois que c'est ça, que Jean n'a fait aucun miracle. Jean n'a fait aucun miracle. Et pourtant, il y a un bouleversement dans le pays. Et c'est pour ça qu'il doit dire à plusieurs reprises, « Je ne suis pas le Christ ». Et cette prédiction d'Ésaïe les aide à comprendre, ah oui, le Seigneur a dit qu'il allait venir un autre avant le Christ. Et c'est l'autre qui est devant nous. Alors, quelle était la tâche de Jean? Comment est-ce que Dieu a préparé le peuple? Quelle tâche est-ce qu'il a donnée à celui qui prépare? Alors, nous lisons dans le texte ceci au verset 2, « Voici, j'envoie devant toi mon messager. » Et dans le verset 3, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. » Alors, la tâche de Jean, c'est d'être un messager. Ce qui compte chez Jean, c'est sa voix. Et rien d'autre, dans un sens. Bien sûr, il doit marcher avec Dieu. Mais je veux dire, dans son ministère auprès des gens, il n'y a que ces mots que Jean utilise. Alors, ça, c'est vraiment assez incroyable. Que Dieu vient vers nous pour nous préparer pour la plus grande chose qui est jamais arrivée dans le monde. Et il nous prépare simplement par un homme bizarre qui dit des mots. Ça vaut la peine de le souligner parce qu'il y a des gens qui veulent être préparés à la venue de Jésus dans leur vie par quelque chose de bouleversant. Il faut qu'ils aient un choc électrique qui traverse le corps. Il faut que leurs poils se dressent. Il faut qu'ils aient une expérience un peu mystique. Mais ma Bible me dit que Dieu me prépare pour son Fils par des mots. Des mots. Alors, pourquoi, comment est-ce que les mots peuvent être tellement importants? Si les mots viennent non pas de Jean, ou non pas de moi quand je vous parle, mais de Dieu lui-même, ça devient autre chose. C'est un message. Dieu vous dit quelque chose. Ah oui, en ce moment, si Dieu t'a parlé, ça peut préparer. Donc, voilà ce que Jean devait faire. Il devait parler aux gens. Comment est-ce qu'il devait leur parler? Et c'est ça que nous voulons vraiment comprendre aujourd'hui. Je vais sauter une remarque que je voulais faire. Je vais vous dire juste ce que j'allais dire, mais je ne veux pas le dire complètement. Si jamais vous parlez avec des témoins de Jéhovah, Marc chapitre 1 et versets 2 et 3 sont les versets à utiliser en premier. Parce que dans ce passage, nous apprenons que Jésus, celui devant qui Jean préparait le chemin, il était le Seigneur. Et si nous regardons en Ésaïe, le mot est Yahvé, Jéhovah. Jean vient, il prépare le chemin de quelqu'un qui vient, et on demande aux témoins de Jéhovah, il prépare le chemin de qui, Jean? Ils disent, mais bien sûr, Jésus. Ah oui, c'est vrai. Il prépare le chemin du Seigneur, c'est-à-dire Jésus. Mais ce Seigneur en Ésaïe, c'est qui? Ah, il prépare le chemin de Yahweh, de Jéhovah. Et donc, on peut les montrer ainsi que Jésus est Dieu lui-même. Quel est le message de Jean? C'est là que nous voulons nous arrêter, là, aujourd'hui. Et il y a deux parties, ce n'est pas difficile à comprendre. La première partie, et c'est ce que Dieu dit à chacun de nous pour la venue de sa fils, c'est « Vous n'êtes pas prêts ». Voilà, vous n'êtes pas prêt. L'état dans lequel vous êtes, ce n'est pas celui que j'agrée, n'est pas celui qui vous permettrait de profiter de la venue de Jésus, je dois vous préparer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est même quand vous serez préparé, ça ne suffit pas. Parce que ce que votre préparation peut vous apporter n'est pas ce que Jésus lui-même peut vous apporter quand il viendra. Vous avez besoin surtout, non pas de la préparation, mais du Christ. C'est lui qui sauvera. Donc, ça, ce n'est pas difficile à comprendre. Nous allons essayer de comprendre la première partie. Vous n'êtes pas prêt, vous avez besoin de vous préparer. Alors voilà, donc Jean arrive dans cette nation qui a tous les atouts, qui est le plus proche de toutes les nations sur la terre, à Dieu. Et cette nation des Juifs pense que, certainement, que le Messie doit venir, et quand il viendra, oui, bien sûr, il va nous perfectionner, on n'est pas parfait, on est d'accord, mais nous sommes après tout prêts, nous sommes préparés pour qu'il vienne. Nous avons besoin de ce qu'il va nous apporter, mais nous sommes les Juifs, nous connaissons les Écritures, et nous sommes prêts pour qu'il vienne, certainement. Alors, Jean leur dit exactement le contraire. Et nous avons besoin de le savoir aussi. Chacun de nous doit être confronté à cette réalité à un moment donné et dire non, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas dans un état où, naturellement, où le Seigneur, la venue du Seigneur auprès de vous serait une bonne nouvelle. Imaginez, Jésus arrive et il leur dit des vérités qui... Ils sont tellement bouleversés, ils ne peuvent pas les accepter. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Je suis le Fils de Dieu. Non, non, c'est impossible. Ce message, cette réalité. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à croire que Dieu puisse envoyer son Fils sur la terre. Ils sont complètement durs, endurcis. Le Dieu du ciel, il le limite, il imagine. Ils l'ont tellement arrangé et confiné dans le ciel et le rendu tellement petit que cette nouvelle, cette bonne nouvelle bouleversante du Fils de Dieu qui vient, Dieu qui devient un, non, c'est impossible. Ces gens sont vraiment dans un état. Et surtout, la raison pour cela n'est pas intellectuelle, c'est morale et spirituelle. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne sentent aucun besoin d'une telle action grandiose et inattendue. Vous savez que j'ai lu il y a quelque temps quelque chose qui m'a fort étonné. Si je vous disais qu'une petite dame est allée auprès d'un grand crocodile sauter sur sa tête, un crocodile sauvage, hein, c'est pas un de ces crocodiles qu'on a dompté un peu, sauter sur sa tête, le taper et le faire rentrer dans l'eau. Vous allez me dire, vous exagérez, quand même. Une telle action est complètement plus qu'on peut s'attendre de la part d'une personne comme ça. Mais si je vous dis le besoin qui a exigé qu'une dame agisse de manière tellement extraordinaire, vous allez trouver ça croyable tout de suite. Ce que vous trouverez incroyable sans comprendre le besoin, vous allez comprendre. Alors, ce crocodile avait le petit enfant de cette dame dans sa bouche. Voilà. Et c'est une vraie histoire. L'enfant s'est échappé de sa vue à un moment. Et donc, agissant comme une maman, elle a oublié ses peurs. Elle a sauté sur le crocodile, elle a sauvé son enfant, il l'a lâché. Et donc, cette histoire est parue dans le journal. Maintenant, quand je vous raconte le pourquoi il fallait qu'elle fasse ça, vous allez dire, oui, c'est croyable. Et la raison pour laquelle vous ne croyez pas que Dieu puisse envoyer son Fils, c'est que vous ne croyez pas que vous ayez un besoin qui demande une action si grande. Que vous soyez tellement pécheur est coupable et éloigné de Dieu, que rien dans le monde ne peut vous sauver, sauf si Dieu lui-même se fait homme et souffre. Mais le jour où vous allez croire que c'est exactement votre état qui demande rien d'autre qu'une telle action, vous allez trouver la venue du Christ croyable. Donc voilà, ce peuple qui avait besoin de ce message et qui pensait être prêt, mais qui n'était pas du tout prêt moralement ou spirituellement pour la venue du Christ, ne pensant avoir aucun besoin qui exigerait une telle personne. Je veux vous montrer la manière dont Jean a fait comprendre aux Juifs, vous n'êtes pas dans un état favorable à Dieu, favorable à sa venue. Vous êtes dans un état complètement désastreux pour Dieu. Alors, Jean a utilisé trois manières. D'abord, la manière dont il s'est habillé et l'endroit où il a prêché. Regardez avec moi. Nous voyons que dans le verset 3, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il va aller dans un lieu désertique, bizarrement, et faire son ministère là. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et nous voyons aussi au verset 6 qu'il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins et il mangeait des sauterelles. Donc nous avons un homme sauvage dans un lieu sauvage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quelque chose de très précis pour les Juifs. Maintenant, regardez. Quand Dieu a fait d'Israël son peuple, comment est-ce qu'il a fait au début? Il les a sortis d'une civilisation d'Égypte qui n'agréait pas. Il les amène dans le désert, dans un lieu sans civilisation humaine, et là, il fait d'eux son peuple par une alliance. Pourquoi est-ce que Dieu doit faire d'Israël son peuple dans le désert? C'est pour dire, je ne suis pas d'accord avec la civilisation des hommes. Je préfère le désert à la cité humaine. Mon peuple ne peut pas être mon peuple s'il fait partie de la cité des hommes. Je vous sors dans le désert, un lieu qui est rude, un lieu qui parle d'épreuve, de repentance, d'éloignement du monde. Et là, je dis, je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple. Et maintenant, une deuxième fois, parce que dans Osée 2, versets 14 et 15, Dieu avait dit au peuple, je vais juste vous le lire rapidement, qu'il allait les faire venir dans le désert une deuxième fois après l'Exode, au moment où vient le Messie. Donc dans les versets 14 et 15, je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévorera. Je les châtierai pour les jours où elles encensaient les Baals et elles se paraient où elle se parait de ses anneaux et ses colliers. Allez vers l'Éternel, ses amants, et m'oubliez, dit l'Éternel. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Alors ce moment est venu, c'est une deuxième fois, où cette fois, choc. Ce n'est pas avec la civilisation d'Égypte que Dieu n'est pas d'accord, c'est avec la civilisation de la Palestine. Et Dieu dit, sortez de là, sortez de Judée, sortez de Jérusalem, je ne suis pas d'accord avec cet endroit, ce peuple, leur manière de m'adorer, venez dans le désert, c'est là où je vais vous appeler à moi-même. Et nous avons besoin de ça. Certains, même dans cette petite groupe, peuvent être tellement sûrs de leur religion. Moi, je fais le culte de famille avec mes parents. Moi, j'assiste au culte avec tout le monde. Je lis la Bible. Mais peut-être votre manière de le faire, Dieu dit, je ne suis pas d'accord. Pas du tout d'accord avec cela. On peut avoir la pratique de la bonne foi sans la foi de la bonne foi. La foi véritable. Aussi, Jean, c'est Élie venu encore. La Bible le dit, La Bible l'a prédit. Et Jean s'habille comme Élie. Élie était aussi un homme du désert, un homme qui rejetait la civilisation un peu. Et Jean est exactement comme lui. Mais attention, cette fois, choc. Élie, il a parlé contre qui dans ses prophéties? Ahab, le terrible, plus terrible des rois du royaume nord, le mari de Jézabel. Et il prophétisait contre le royaume nord qui avait abandonné Yahweh, qui adorait des faux dieux. Mais cette fois, le deuxième Élie, il parle contre qui? Il parle contre les pharisiens, les responsables religieux de Jérusalem, de Judée, du reste qui était resté fidèle, soi-disant, à l'Éternel Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a là un choc. Et moi, je veux dire, pour nous, ça veut dire que si nous ne sommes pas venus au Seigneur, et même parfois si nous sommes venus, nous tombons dans les anciennes habitudes. Mais Dieu nous confond et il veut nous montrer constamment que nous ne sommes pas ce que nous pensons. Nous avons besoin de nous humilier. Nous ne sommes pas, il n'est pas d'accord, il a une controverse avec nous. Alors, qu'est-ce que Jean leur a dit de faire? Donc, il leur apprend cette leçon. Vous n'êtes pas prêts par sa manière de s'habiller, par l'endroit où il prêche, qu'il leur dit, vous devez sortir de là où vous êtes. Et deuxièmement, par ce qu'il leur dit de faire. Il leur dit de se repentir, de confesser leurs péchés, de leur dire, de dire ses péchés, peut-être en public, probablement. Et puis, il les baptise. Il les baptise dans le Jourdain, signifiant purification. En d'autres termes, vous êtes sale. Vous avez besoin d'être purifié. Et troisièmement, par la manière dont Jean change la base ou le critère pour être un membre du peuple de Dieu. Écoutez bien. Avant Jean, qui était un membre du peuple de Dieu? Eh bien, si je suis né de parents juifs, je suis juif et j'ai droit à la circoncision. C'est une question de lien physique. C'est une question de descendance physique. Et Jean doit lutter avec les gens là-dessus. Il dit, vous venez à moi. Pourquoi? Vous vous dites, nous sommes des fils d'Abraham. Donc on se fie au fait qu'on est fils. On a cette descendance physique. Et Jean dit, non, Dieu peut soulever, susciter des fils d'Abraham, de ses pierres. Repentez-vous. Et maintenant, au lieu d'avoir un peuple qui est le peuple de Dieu parce que je suis né physiquement comme ça, et je suis donc circoncis, on a un tri. Jean va prendre Israël, il va faire un tri, et il va dire, il y a un peuple, nouveau peuple de Dieu, au sein de l'ancien peuple de Dieu. Et qui en fait partie maintenant? Les gens qui sont descendus physiquement d'un juif? Non. Jean fait un tri et ce sont les gens qui se repentent. Quel est leur signe? Pas la circoncision, c'est le baptême. Le baptême des gens repentants forme un nouveau peuple. Et ça nous montre, c'est une transition entre la circoncision et le baptême. La circoncision est involontaire, inconscient, un bébé le subit. Maintenant, le baptême des gens est quelque chose de volontaire, poussé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une chose de la libre arbitre de l'homme, c'est Dieu qui œuvre dans l'homme, qui l'amène à la repentance. Et ceux qui se repentent, ceux qui confessent leurs péchés, sont baptisés. Et donc, le tri est fait. Et Jean le dit bien. Il dit, vous n'êtes pas. Vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, mais vous ne l'êtes pas. Vous qui êtes simplement descendus d'Abraham. Il met le peuple de Dieu sur une nouvelle base et prépare pour le baptême chrétien. Donc nous avons un nouveau peuple de Dieu. Nous savons, d'après la lecture que Pierre a faite, que tous ne sont pas, tous n'ont pas été d'accord pour confesser, pour se repentir et pour se faire baptiser. Par exemple, les pharisiens et les responsables ont refusé. Et Dieu a fait le tri. et il a montré qu'il faut quelque chose de plus que la simple, l'ancienne alliance et au moins sa partie physique. Ok, donc nous voyons qu'à travers tout cela, il est en train de dénuer Israël, d'enlever tout ce qu'Israël pensait l'avoir de bien dans sa justice de soi. Je ne dis pas que tout le monde pensait comme ça, il y avait des vrais croyants, il y avait des gens qui étaient régénérés, qui comprenaient la grâce, mais la masse des gens comptaient, vivaient de manière injuste ou comptaient sur eux-mêmes, pensaient être complètement prêts pour le Messie. Et il allait juste nous perfectionner un peu. On est déjà sur la bonne route, mais il faut juste nous affiner, nous raffiner un peu. Et Jean casse tout ça. Il dit, vous n'avez pas commencé sur le bon chemin. Vous êtes sur le mauvais chemin. Vous ne comprenez même pas ce que c'est que la voie de l'Éternel. Et donc, je vais vous montrer que vous êtes des gens en besoin de repentance, en besoin de purification, en besoin d'oublier cette idée fausse depuis toujours que c'est simplement ma descendance physique qui fait de moi un enfant de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, on n'aurait pas dû penser ça. Maintenant, je termine avec la deuxième partie du message de Jean. Jean vient nous dire que nous ne sommes pas préparés naturellement pour le Christ et vous ne l'êtes pas non plus. Il faut cette œuvre de Dieu souvent dans nos vies pour que nous soyons même prêts à écouter. Mais beaucoup plus courtement, je dirais juste que, parce que nous allons étudier ça dans le temps à venir, Jean leur dit en deuxième lieu que bien qu'ils soient préparés, ce n'est pas leur préparation qui leur apporte ce qu'il faut. C'est le Christ qui va leur apporter quelque chose que leur préparation ne les apporte pas. Regardez avec moi à la fin du passage et vous verrez ce que je veux dire et pourquoi j'ai dit ça. Nous lisons au verset 7, ils prêchaient disant, et maintenant ils les préparent, ils sont baptisés, ils ont confessé leurs péchés, ils sont dans un état spirituel différent, mais cet état, ça va, c'est pas ça encore, parce que Jean va leur dire, il vient après moi, attendez, la vraie chose n'est pas encore venue, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Et nous avons besoin de comprendre que tout instrument humain, si quelqu'un vous fait part de l'évangile, ou même l'instrumentalité de la Bible elle-même, le texte biblique, c'est comme un Jean-Baptiste. Ce n'est pas le Fils de Dieu lui-même, mais il y a des gens qui sont bloqués parce qu'ils se fient à un instrument, à un Jean de Baptiste, à quelque chose que Dieu a fait pour les préparer, ils s'arrêtent là. Ça, c'est juste pour vous préparer. Et Jean dit, il est plus puissant que moi. Moi, je ne suis même pas digne de délier la croix de ses sandales. Je vous ai préparé, mais il n'y a rien encore. Attendez, vous avez besoin du Christ lui-même. Et moi, je vous dis, vous avez besoin du Christ lui-même. Avez-vous le Christ, le Fils de Dieu? Et ensuite, il dit dans le dernier verset, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » J'ai fait quelque chose pour vous qui était partiel, qui était en grande partie symbolique, qui n'était pas la réalité, mais qui pointait vers la réalité. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Cette eau ne peut pas vraiment vous enlever le cœur pécheur. Mais celui qui vient après moi, il vous plongera, il vous immergera dans l'Esprit de Dieu lui-même, dans un âge nouvel, où l'Esprit de Dieu est notre ambiance, où les puissances d'un âge à venir viennent maintenant dans notre vie présente, où vous ne serez plus limité à votre capacité de vous repentir, votre capacité de penser correctement sur Dieu, où le Christ va venir faire autre chose, complètement autre chose en vous, vous illuminer, vous donner une manière de voir manière de vous comprendre, manière d'entrer finalement dans la réalité. Mais tout ça, c'est vrai, je le vois maintenant, comment est-ce que je n'ai pas vu? Mais c'est le Christ qui apporte ce salut dans sa plénitude. Alors, je pense que l'application est évidente pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Déjà, il y a une œuvre de préparation dans votre cœur, par la parole de Dieu, par la loi de Dieu, qui vous dit, qui vous montre votre péché, votre besoin. Il y a toutes sortes de moyens. Par la providence, Dieu laisse des choses arriver dans ta vie qui cassent votre assurance dans votre manière de vivre, dans le bonheur, la source de bonheur dont vous vous fiez. Donc Dieu est en train de faire toutes sortes de choses et je vous dis, réveillez-vous. Ne passez pas à côté de Dieu quand il vous prépare pour la venue de son Fils. Mais ne vous arrêtez pas là. Vous avez besoin de venir à Jésus-Christ. Dieu vous ouvre les yeux pour que vous regardiez Christ. Ce qu'il a fait, ce qu'il est, ce qu'il promet, le salut qui est en lui, cette promesse « Venez à moi ». Celui qui a le Fils à la vie, prends-moi, dit le Fils de Dieu. Et donc vous avez besoin de ces deux choses. Si vous êtes chrétien, je pense que nous sommes constamment en besoin de ce même message. Dieu doit constamment revenir, nous casser un peu les fondements de notre justice de soi qui grandit, qui refait surface, n'est-ce pas? Pas de manière fondamentale comme lorsque nous étions non-chrétiens, mais nous aussi, nous avons besoin parfois d'entendre cette parole et de savoir que Jean-Baptiste n'a pas mis en place un événement isolé qui ne se répète jamais, oui, dans un sens, mais dans un autre, nous entrons dans une vie de repentance par l'Évangile. Et nous n'arrêtons jamais d'expérimenter ce travail où Dieu me montre plus profondément que j'ai besoin de Christ. Il me prépare pour une rencontre plus profonde avec son Fils. Et moi aussi, je dois me réveiller, je dois me dire, qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour creuser le sol, pour mettre des trous, pour que je puisse connaître le Christ plus profondément. Et parfois, nous passons à côté des choses qui arrivent dans notre vie, la parole de Dieu, les manières dont Dieu nous enlève des supports, des choses sur lesquelles nous comptons en nous-mêmes et notre façon de vivre la vie chrétienne.